le lien entre protestantisme et responsabilité, et principe de responsabilité, vous l'avez évoqué quand même pas mal avec l'apparition de la responsabilité. Est-ce que vous aviez une forme de filiation aussi comme ça dans les écrivains, ou, parce qu'en fait le mot responsabilité arrive assez tard, vous l'employez à l'époque.
Mais... Oui, cela étant, on est quand même chez Calvin, et dans d'autres textes, je pense de Heidelberg, vous avez quand même cette idée que Dieu nous offre gratuitement le salut, mais qu'il nous incombe d'y répondre.
Exactement.
Donc cette idée de responsabilité, c'est-à-dire que, au fond, la critique que les réformateurs adressent à l'éthique médiévale, c'est de dire, au fond, à l'époque de la papauté, on nous disait ce qu'on avait à faire et on était tranquille. C'est-à-dire on faisait, on ne faisait pas, et si on faisait, tout était très bien, si on ne faisait pas, il nous en cuisait. Là, au fond, c'est beaucoup plus ébranlant, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous êtes sauvé par la foi, il y a un souci, mais il vous incombe de décider vous-même de la façon dont vous allez répondre à ce don qui vous est fait dans votre vie et dans votre engagement. Ça nécessite de la part du chrétien une capacité à développer une responsabilité personnelle face à la réalité de ce qu'il a à faire ou à ne pas faire, du lieu de son engagement, etc. D'où la, en partie aussi les thèses qui accréditent l'idée que le protestantisme a contribué au développement du libéralisme économique, ce qui est sans doute vrai. Hein.
Mais surtout si on considère que ça doit se développer dans tous les actes de la vie.
Tout à fait. Là, je donne l'exemple de l'économie, mais enfin, tous les actes, n'est-ce pas, Luther disait, donc c'est déjà chez Luther, qu'un chrétien qui travaille dans la foi prie deux fois. Donc cette idée qu'il y a la prière qu'on fait chez soi, mais que le travail du chrétien qui se sent en phase, pour le dire comme ça, avec ses convictions lorsqu'il travaille, eh bien, il prie deux fois. Et vous avez aussi ce jeu sur le double sens du mot Beruf en allemand, hein, qui est à la fois le travail, mon Beruf, c'est mon job, et en même temps l'idée de la Beruf, la vocation, Beruf. Donc ça c'est un élément extrêmement important aussi pour cette éthique protestante, dont Max Weber va faire des grandes théories sociologiques qui tiennent toujours la route, mais disons, c'est quand même un grand texte, hein, si on veut parler de ça, l'éthique protestante à l'esprit du capitalisme. Il y a sans doute quelque chose de juste dans cette idée que le protestantisme a mis, la réforme plutôt, a mis en avant cette notion fondamentale de responsabilité personnelle. Et Saint-Luther le dit très bien dans un texte de 1520 qui s'appelle le Traité de la liberté du chrétien. Il dit, nous sommes, le vrai message de l'évangile, c'est vous êtes libre. Et cette liberté vous impose aussi une responsabilité. D'où une réalité.
Vous avez, notamment au début de votre intervention, fait plusieurs fois des liens avec ce qui se passe en ce moment. Est-ce que donc, dans les techniques de communication et dans l'islam, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous pouvez développer ?
Ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe à l'époque. Mais ça ressemble. Mais il faut toujours se méfier des ressemblances. Je pense que ce qui nous rapproche du XVIe siècle aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un temps de rupture, comme à cette époque-là. Il y a un changement, on était dans un monde bipolaire, maintenant on est dans un monde multipolaire, les référents bougent. Il faut voir qu'au XVIe siècle, l'émergence de l'imprimerie fait aussi qu'on ne pense plus, et l'UCR est significatif de ce point de vue-là, on ne pense plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on ne pense plus à l'échelle continentale, mais à l'échelle mondiale, etc. Il y a une accélération de la communication, il y a une augmentation aussi de ce qui est communiqué, etc. Donc, dans ce monde de rupture qui était celui du XVIe siècle, il y a des figures importantes, Luther, Calvin, Bucer, etc. Et je pense donc qu'on peut, je quitte la casquette de l'historien pour prendre celle du théologien du XXIe siècle. Parce qu'il y a des choses à aller chercher chez ces gens-là pour essayer de voir comment on peut répondre aujourd'hui à la situation. C'est dans ce sens-là que je dis que les situations ressemblent. En revanche, sur la question de l'islam, on n'est pas du tout dans le même contexte. Moi, je ne considère pas que nous soyons assiégés comme on le considérait à cette époque-là, pour une raison très simple, c'est que l'islam est une réalité de nos pays occidentaux, une réalité intérieure. Ce n'est pas la menace extérieure du XVIe siècle, c'est une réalité avec laquelle nous vivons. Le meilleur, c'est le plus grand des cas, et ça, c'est la théologie, évidemment, le cas. Mais ce qui est important dans ce contexte, qui est le nôtre aujourd'hui par rapport à l'islam, me semble-t-il, c'est justement de mesurer tout ce que la vision qu'on en a en général dans l'esprit disons, occidental doit justement à une construction qui vient de cette époque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans le substrat de l'arrière-plan l'inconscient, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans l'inconscient collectif occidental, encore quelque chose de cette peur du turc tel qu'on s'est représenté au XVIe siècle. Et je pense que ça, il faut l'exorciser si nous voulons avoir un rapport sain, durable et constructif à l'islam. Voilà. Mais là, c'est l'individu qui est paralysé. C'est un moyen de la porte. Mais je pense que c'est un des éléments importants face à la
tradition. Si j'ai bien compris, la naissance du protestantisme, c'est finalement une rébellion par rapport, une rébellion certainement légitime, je pense légitime d'ailleurs, au constat des dérives, on va dire, de l'Église en tant qu'institution.
Oui, alors.
Et des hommes d'église qui se sont parfois perdus avec des crises autoritaires. Ou voilà. Aujourd'hui, en 2017, avec toute l'évolution, j'ai envie de dire, de l'église, qu'est-ce qui empêcherait finalement de se réunir de nouveau?
Ah, alors il y a deux questions.
Oui, il y a
deux questions. Alors, la première chose, je dirais, je ne pense pas qu'il faille réduire la réforme protestante du XVIe siècle à une critique des abus ou des dérives de l'Église médiévale. C'est plus large que ça, pour une raison très simple, c'est que vous avez au XVIe siècle des gens qui critiquent les abus de l'Église médiévale et qui ne deviennent pas protestants. Donc c'est pas que ça. C'est aussi l'adhésion, je pense, et une nouvelle façon de croire et d'envisager ce qu'est la religion. Et c'est cette insistance dont j'ai parlé de Luther sur la conviction personnelle, individuelle et subjective comme étant le nœud ou le noyau de toute religion. Tant et si bien que cette vision-là, qui n'est pas celle du catholicisme médiéval, elle va finir par dépasser la réforme et innerver jusqu'au catholicisme lui-même. Donc c'est plus, à mon sens, une simple critique des actes. Ce qui, alors, aujourd'hui, empêche la réunion, si vous voulez, entre catholiques et protestants tient à plusieurs réalités théologiques. Il y a des réalités théologiques qui étaient problématiques au XVIe siècle, mais il y a des réalités théologiques qui sont devenues problématiques par la suite. Je vous donne un exemple. Alors c'est pas là-dessus que repose le désaccord principal, mais depuis le XVIe siècle, un certain nombre de thèses ont été proclamées dogmes par l'Église catholique qui ne l'étaient pas au XVIe siècle. L'Immaculée Conception et l'Assomption, par exemple. Ce n'étaient pas des dogmes au XVIe siècle. Depuis 1854 et 1950, ces deux notions sont des dogmes de l'Église catholique, donc c'est gravé dans le marbre. Et ça, on ne peut pas revenir là-dessus. L'idée qui préside à l'élaboration du dogme catholique, c'est que ce dogme ne peut que s'enrichir. On ne peut jamais rembobiner la cassette et puis couper ce qui gêne et ensuite la rediffuser. Donc ça c'est structurellement comme ça. Le dialogue œcuménique, je le dis avec tout le respect nécessaire, hein, il se trouve que j'enseigne régulièrement à la Cathédrale de Paris, hein, c'est un travail constant que nous faisons, mais ça, en tant que protestants, nous avons à en tenir compte parce que nous dialoguons avec les catholiques. On ne peut pas leur dire, oui mais vous êtes d'accord, là franchement, vous avez dit des conneries, arrêtez, revenez là-dessus. Même s'ils en convenaient à titre individuel, ce ne serait pas possible sur le plan doctrinal, institutionnel, parce que le fonctionnement de l'Église catholique est comme ça. Donc ça, c'est un élément, je dirais, un premier élément de réponse. Ce n'est pas seulement le désaccord du XVIe siècle, mais aussi ce qui s'est ajouté par la suite. parce qu'on est arrivé, je vous parlais du fameux consensus différencié tout à l'heure entre protestants et catholiques, entre protestants luthériens et protestants réformés, cette méthode, elle a aussi été appliquée dans le dialogue avec l'Église catholique, elle a abouti à un texte en 1999 sur la justification par la foi, hein, le grand sujet dont je vous ai parlé à propos de Luther, qui était donc un point de désaccord entre catholiques et protestants. Grâce au dialogue œcuménique, à cette méthode où on dit ben, finalement on n'est pas d'accord, mais on arrive à le formuler de telle sorte à ce que l'on ne se rejette pas des anathèmes à la figure, ben, on est arrivé à un texte qui a été signé par l'Église catholique, par la Fédération luthérienne mondiale, qui a été ensuite signé par l'Église méthodiste, et qui dit que sur la question centrale qui posait problème au XVIe siècle, on est finalement d'accord. Pour savoir, les catholiques et les protestants sont d'accord sur cette question. Le problème, donc, il vient de ce que, par la suite, des deux côtés, de nouveaux désaccords se sont ajoutés. Alors, je vous ai cité Marie. Oui, mais c'est pas central, vraiment pas. C'est plutôt un exemple que je vous donne. Franchement, moi, je dis toujours que mes amis catholiques, je veux croire qu'elle a été conçue de manière immaculée, qu'elle est montée au ciel. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, si vous voulez, ce n'est pas ça. Les difficultés, elles viennent beaucoup plus de la... ça date du XVIe, mais ça s'est développé par la suite, du désaccord ecclésiologique fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'Église, en fait? C'est-à-dire que pour le protestant, et ça, je m'en réclame avec beaucoup de conviction, ce qui est premier, c'est ma conviction individuelle, personnelle et subjective. L'Église, elle vient après. Même si j'en ai une, l'Église. Appartient, je suis même ministre en tant que professeur de cette faculté qui réunit l'Église. Donc je ne considère pas ça comme anodin. Et ça vient en deuxième. Et l'Église, à certains égards, n'a pas à me dire ce que je suis censé croire ou faire. Ça, c'est un deuxième principe. La réalité catholique, elle est tout autre. C'est-à-dire que, bien sûr, l'individu est pris en compte, indéniablement. Mais il n'en reste pas moins que le faire Église, le souci de faire Église est beaucoup plus fort, pas forcément chez les fidèles, mais dans la compréhension de ce qu'est l'Église. On considère comme allant de pair avec la conviction. C'est pas que c'est premier, mais ça va ensemble. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Il y a une espèce de. Comment est-ce qu'il faut dire ça?
Institutionnalisation.
Oui, de vise. Non, parce que, oui, c'est-à-dire de corrélation, c'est le mot que je cherchais, de corrélation entre la vie religieuse et la réalité ecclésiale. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte dans les nombreuses discussions que j'ai eues avec des théologiens catholiques, je me souviens en particulier d'un échange avec le père Hervé Legrand, dominicain, qui me disait, mais. Et c'était vraiment un moment de discussion très profond. Je ne comprends pas, chez vous autres protestants, que vous puissiez vous satisfaire, en passant de la France à la Suisse, de changer d'église. Parce qu'au fond, les églises protestantes, ben, elles sont nationales. Il hein. N'y a pas une église universelle, pour le dire comme ça. Mais enfin, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais encore une fois, pour les réformateurs, l'Église universelle, c'est l'Église de tous les croyants, de tous les individus croyants, mais pas de l'institution. Et là, dans la vision théologique de l'Église en catholicisme, dimension universelle, visible, concrète, institutionnelle de l'Église est une réalité fondamentale. Et bien évidemment, qui dit église institutionnelle visible, dit un chef, le souverain pontife, qui est le vicaire du Christ.
Mais un État, c'est une vision politique.
Alors, politique, ça va, oui. Je décorrélerai les deux. Mais disons, en tout cas, il faut. Cette église, elle est visible. Et elle a sa tête un chef. Et donc, dans le dialogue œcuménique, vous avez un élément très clair qui le signale, c'est que l'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble toutes les Églises chrétiennes du monde. L'Église catholique a toujours dit, mais si nous adhérions au Conseil œcuménique des Églises, cela signifierait que nous ne sommes plus l'Église universelle. Or, nous sommes l'Église universelle, donc l'unité ne peut passer que par le retour à Rome et à l'Église catholique. Mais c'est, je le dis encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça en tant que protestante, bien sûr, mais je le dis avec tout le respect du monde, parce que précisément dans les dialogues écuméniques que nous ne cessons de mener, liés à l'Institut supérieur d'études écuméniques dans lequel je siège, il s'agit justement de prendre en compte cette réalité. Parce que si on dit oh non, mais c'est n'importe quoi, arrêtez avec ça, ben on n'avance pas. Donc il faut le tenir. Même si on n'est pas d'accord avec ça, il faut le tenir pour une réalité qu'on ne peut pas.
C'est cohérent.
Ben c'est, oui, c'est une forme, il y a une forme de cohérence avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais que j'ai à respecter et dont je dois tenir compte. Si l'Église catholique abandonnait ça, il ne serait plus l'Église catholique, ce serait autre chose.
Les différentes églises protestantes.
Pardon, je fais une réponse un peu longue, mais
c'est plus important.
Oui.
Différentes églises protestantes sont plurielles, mais pas autocéphales. Comment est-ce que vous discutez avec vous et comment est-ce que vous absorbez, par exemple, comment est-ce que vous coexistez avec les mouvements charismatiques qui se sont développés chez les protestants?
Vous avez quand même des églises structurées, hein, oui. L'église protestante unie de France, c'est en 2013, le rapprochement entre les réformés et les luthériens existe depuis la réforme, bon, avec des coupures qui ont été dues à l'intervention de la monarchie française. Enfin, bon, ça, c'est l'histoire du protestantisme en France qui est assez complexe. Donc, disons, on a une réalité institutionnelle qui existe. Il faut savoir que l'église protestante unie de France est membre depuis sa fondation en 1905 de la Fédération protestante de France, qui rassemble toutes les églises protestantes qui le veulent bien au sein de cette fédération pour organiser le dialogue avec la République. Le président de la Fédération protestante de France, alors en l'occurrence actuellement le pasteur François Ferreroli, c'est lui qui représente le protestantisme auprès de la République lorsque c'est nécessaire. Et donc c'est principalement, si vous voulez, dans cette instance-là que le dialogue s'instaure. Après, il y a des mouvements protestants, des types évangéliques, charismatiques, etc., qui n'y ont pas adhéré, qui ne veulent pas y adhérer. Hein, c'est en particulier le mouvement qui s'est structuré. C'est le CNEF, donc le Conseil national des Églises évangéliques de France, qui donc, n'a pas voulu adhérer. Enfin, ce sont des églises qui n'ont pas souhaité adhérer à la Fédération protestante de France parce que considérait qu'il y avait trop grande place pour les luthériens réformés, etc., qui étaient minoritaires, qui avaient lieu défendre leurs intérêts. Et alors du coup, ça donne toujours des petites bisbilles parce que là, on a eu un colloque à la mairie de Paris pour les 500 ans de la réforme, et je ne sais plus c'est le président Macron qui est venu nous dire bonjour et qui à un moment donné a remercié la Fédération protestante de France et le CNEF. Alors tout à coup, bien sûr, la Fédération protestante de France a commencé à dire, oh mon Dieu, il commence à leur parler à eux aussi, pas seulement à nous. Donc voilà, il y a des... c'est très bien.
Une question de Clément.
Il y a des instances qui existent au sein desquelles nous dialoguons. Puis après, par exemple, les facultés de théologie, d'autres facultés parisiennes travaillent beaucoup avec la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, par exemple. Moi, je suis allé à des soutiens de thèse là-bas, je donne un cours commun à mon professeur. Voilà. Mais après, vous avez bien évidemment une réalité protestante actuelle, mais là, il faut un sociologue pour y répondre, qui est le développement de ce que vous avez appelé les mouvements charismatiques, effectivement, et qui pousse un peu comme des champignons. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui se créent dans des garages, en banlieue parisienne, qui rassemblent 300 personnes dans une salle de gym, etc. Mais là, on est très loin de ce qu'est le protestantisme, le luthéro-réformé ou évangélique. D'ailleurs, il y a des sociologues pour se demander si certains mouvements complotistes peuvent encore être considérés comme protestants. C'est une question théorique qui se pose. Oui ?
Je vais revenir sur votre intervention générale parce que je vais essayer de faire court et pas trop trop naturel. Deux vraies difficultés à suivre votre raisonnement.
Oui.
La première difficulté, c'est que j'adhère pas du tout à la vision que vous avez faite du monde chrétien tel qu'il existe avant la réforme, et notamment ce monde chrétien qui aurait une forme d'apogée, etc., puisque le monde chrétien, on va dire entre l'an 1000 et le 13e siècle, est traversé par des contestations très fortes, des remises en cause, des vraies interrogations importantes. Alors, je ne rentre pas dans le débat, mais si on discute des fratricides, des cathares, de ces mouvements-là, on a une vraie vivacité intellectuelle et on n'a pas du tout, de la part de l'Église, me semble-t-il, une logique aussi hégémonique que celle que vous présentez, mais plutôt une logique synodale qui arrive à sa fin et qui n'est pas capable de faire face à ça. En fait, pour moi, ce n'est pas une affirmation d'hégémonie, c'est un échec de la dimension synodale de réussir à résoudre ce problème. Et j'en viens à ma deuxième question, c'est que du coup, dans votre présentation, vous avez une présentation qui est très téléologique, et théologique, et du coup, à aucun moment, on a eu l'arrière-plan politique. Or, le protestantisme, s'il a eu ce succès-là, c'est parce qu'il était politiquement instrumentalisé et qu'il intervient dans une Allemagne et non pas en France, et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, très intéressant. Quand on regarde l'émergence des États, il y a un État central en France qui est en train de se monter en montée, et François Ier est quand même le roi centralisateur, finalement, alors qu'en Allemagne, il n'a pas du tout ça, et c'est que là, on peut avoir ça. Et finalement, le protestantisme aboutit à ça, parce que c'est une super solution pour faire cohabiter des petites souverainetés locales, et pas du tout la solution. Et donc, du coup, j'ai l'impression que bon, la présentation que vous en faites, me semble-t-il, on pourrait savoir en avoir une lecture très cynique et d'instrumentalisation d'une doctrine politique, d'une doctrine théologique à un moment, à des fins strictement politiques, et qu'en fait, le succès du protestantisme n'est plus ou moins qu'une instrumentalisation de quelques barons locaux pour s'affirmer face à l'autre potentat. J'ai fait volontairement un
peu de J'ai bien compris. Vous êtes d'accord pour présenter la réforme en une heure? Moi, je ne peux pas tout traiter. Donc, je suis aussi obligé de faire un certain nombre de simplifications qui implique une certaine forme de caricature. Indéniablement, c'est le problème de tout type d'exposé de ce genre. Alors, je vous rassure, si vous lisez mon procès, vous verrez que la dimension politique est traitée de manière tout à fait claire. C'est indéniable qu'il y a une part d'acquaintance entre le mouvement réformateur et le pouvoir politique. Ça, c'est tout à fait clair. Cela étant, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, et ça les historiens disons, sociaux de la réforme l'ont bien montré, la dimension d'adhésion, pour autant qu'on puisse l'évaluer, populaire que rencontre la réforme. Vous avez un exemple qui est typique, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les Flugschriften, donc les tracts volants à l'époque de la réforme, qui se multiplient autour de Luther et qui sont dans leur grande majorité, disons, des textes de soutien à Luther qui manifestent, disons, un véritable élan populaire. Et on sait aussi par les chroniques, etc., tout ce qui se passe. La récupération même de Luther dans ce qu'on va appeler le mouvement paysan des années 1525, avec en particulier donc, ces paysans qui se soulèvent contre leur seigneur en disant nous sommes avec le docteur Luther, témoigne, je crois, chez les gens qui sont pour la plupart des illettrés, disons, de l'impact disons, populaire de ces idées. Est-ce qu'elles ont été bien comprises? C'est une autre question, mais si on entre là-dedans, on n'en finira pas. Donc je pense qu'effectivement, la vision cynique que vous proposez, puisque je pense que c'est pas correctement, elle est tout aussi caricaturale à mon sens.
Caricature inverse.
Mais bien sûr que la dimension politique est importante, c'est clair. Du reste, je pense que les réformateurs ont tout à fait conscients eux-mêmes, ils ont très bien joué là-dessus, que ce soit Zwingli à Zurich avec le conseil de ville de Zurich, une ville république, ça comme ça, que Luther avec son prince. Le reste, en 1525, quand il y a ces grands soulèvements populaires, il est du côté des princes contre ces mouvements populaires qui pourtant se réclament de lui. Mais c'est là, si vous voulez, que je tiens quand même à ce que j'ai dit. Je pense que le fait que ce mouvement populaire, même désavoué par Luther, se soit réclamé de lui, du droit à la conscience, etc., du droit à l'individualité transférée dans le domaine politique et social, c'est quand même significatif d'un mouvement qui se met en route. Mais il n'y a rien de téléologique dans ce que j'ai dit, dans la mesure où j'insiste là-dessus. A posteriori, si on pose la question est-ce que la réforme a engendré la modernité, on peut répondre oui, mais à condition de considérer que c'est un enfant non désiré. Donc à partir du moment où ce n'est pas un objectif souhaité, il n'y a plus de théologie, puisqu'il n'y a plus de théos, il n'y a plus d'objectif. Donc c'est plutôt une conséquence, comment dire, inattendue et non voulue. Alors la question de la synodalité échoue. Oui, bien sûr, les deux modèles sont en concurrence pendant de très nombreuses années, et c'est bien évidemment aussi parce qu'on mesure à un moment donné que le modèle synodal ou conciliariste finalement ne fonctionne pas, qu'on va vers un modèle plutôt hégémonique ou, allons-y, autocratique. Ce que j'ai présenté là, de manière un peu forte, c'est le discours de légitimation démonstration a posteriori de cette victoire du modèle autocratique, parce que c'est ce discours qui ensuite va être contesté. Donc je n'ai pas du tout que son émergence... Comme je dis toujours à mes étudiants, c'est une de mes formules préférées, machin ne s'est pas levé un matin en disant « je vais faire ça ». Donc je vais l'utiliser ici, disant « Innocent III ne s'est pas levé un matin en disant « tiens, si j'ai fait une victoire de Pierre du Christ ». Pas comme ça que ça marche. C'est lui-même le fruit de conflits, enfin, de cette théorie, cette vision pyramidale, disons, et le fruit de conflits qui aboutissent à son triomphe sur un autre modèle. Mais voilà, quand on fait de l'histoire, il faut aussi comprendre, enfin, il faut aussi prendre un point de départ et un point d'arrivée. Sinon, j'aurais commencé aux hommes des cavernes et puis je parlerais de la politique religieuse du gouvernement Macron. Voilà, on ne pourrait pas.
Question d'Emmanuel.
Oui.
Il y a une question ici.
Allez,
je suis parti à.
Bon, bonsoir.
Emmanuel et Christophe.
Oui, très rapidement, pour rebondir un peu sur un document très pertinent.
Ah oui, tout à fait.
Parce qu'il y a notamment un autre type de réforme. On n'en a pas parlé, puisque c'était une question suisse. Ce n'est pas une réforme, c'est l'anglicanisme.
Oui, bien sûr.
Et qui est en fait totalement simultané, puisque la Cour de suprématie, c'est un 130.
34.
Donc on est en plein milieu en fait de ce qui se passe également en Europe continentale. Et enfin, ça c'est continental. Et justement aussi des revirements successifs de Charles Quint sur j'accepte que mes princes électeurs puissent être protestants, puis en fait non, puis en fait si, puis en fait d'ailleurs en Suède, au Danemark. Ça va devenir religion d'État, d'ailleurs, mais c'est autoritaire. D'ailleurs, Calvin, vous avez été très tendre avec lui. Je ne veux pas avoir la vision strictement de Stenzweig sur.
Oui, qui en termes de caricature, il est fort aussi, mais enfin bon, dans un contexte.
Il a quand même instauré, c'est la première république qui a imposé à ce point, puisque d'ailleurs, enfin, les jeunes voix se sont rebellés. Hein, deux fois, qui a posé quand même des règles de morale publique aussi fortes sur ce territoire. Enfin, il me semble que c'était mieux.
Bah, si vous voulez, alors là, vous êtes aussi victime d'une certaine historiographie. J'ai essayé d'être assez critique avec l'historiographie apologétique protestante qui voyait dans la réforme la mère des modernités. Je vous ai dit que Luther ne peut pas tenir. Ça dénigre que Calvin non plus. En revanche, l'idée qu'avec Calvin, vous avez une chape de plomb moralisatrice qui tombe sur la ville de Genève, elle a été battue en brèche par les historiens ces 30 dernières années. C'est-à-dire que le 95% des règles de comportement que Calvin traduit dans ses ordonnances ecclésiastiques de 1542, elles existaient déjà avant. Il a fait un travail de juriste qui consistait juste à systématiser ça. Sauf que par la suite, bien évidemment, l'historiographie catholique s'en est emparé pour dire mais regardez ce que c'est horrible ce qu'ils ont fait là, et puis par-dessus vous avez eu Voltaire. Alors Voltaire a fait ils ont beaucoup de mal Voltaire a fait le reste, et c'est fascinant. J'ai travaillé le sujet en espèce de Voltaire et l'histoire de Calvin, à quel point Voltaire est allé puiser systématiquement et volontairement, parce qu'il était en désaccord à ce moment-là avec le pasteur de Louvois, qui vivait à Genève et qui l'embêtait pour des questions d'impôts. Il est allé se servir sciemment et exclusivement, pratiquement, dans toute cette polémique catholique qui remonte à 1577 et à un certain Jérôme Bolzec qui décrit Calvin effectivement comme un atrabilaire qui veut maîtriser ses compulsions sexuelles en maîtrisant celles de ses concitoyens. Et donc Voltaire a complètement mis de côté, à supposer qu'il ait su, le fait que, encore une fois, l'interdiction de la danse, par exemple, tout ça, vous avez à Genève des actes qui sont passés au XVe siècle et qui l'interdisent. Et vous trouvez ce type d'interdiction de la danse, les habits luxueux, le contrôle des mœurs, etc., vous le trouvez ailleurs, dans les territoires catholiques, au XVIe siècle. Et là où vous ne trouvez pas, vous avez des princes. C'est étudié aussi par les historiens sociaux, enfin, qui sont intéressés à l'impact social de la réforme. Vous avez la même chose dans les territoires catholiques où on dit, bah, finalement, ce qu'ils font là, c'est pas mal. On devrait s'en inspirer. Donc, en fait, ce qu'il y a, si vous voulez, plutôt, je dirais, hein, qu'une chape de plomb moralisatrice qui tombe sur Genève, et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension de la réforme comme un mouvement de communication. C'est-à-dire que pour Calvin et son successeur Théodore de Bèze, il faut montrer que la réforme, ce n'est pas seulement un changement des idées et de la théologie, mais un changement de la vie. Donc on va faire de la... On va monter au fond, on va mettre en exergue, on va souligner toutes ces mesures, ces ordonnances qu'on a prises sur la question de la moralité. Mais en fait, elles existent déjà. La plupart à Genève. Simplement, elles sont systématisées et on insiste beaucoup là-dessus parce qu'un protestant, comme il a changé de point de vue théologique, il a aussi changé de place. Donc on peut dire que là, il y a c'est de la propagande. Hein. Alors, ça, je veux bien qu'on le dise.
Oui. Petite question, parce que...
J'ai pas répondu sur l'anglicanisme, hein, mais...
Oui, non, je pense que c'est la simultanéité qui est assez intéressante, parce que...
Oui, et c'est d'autant... Enfin, c'est quand même important, parce que, faute de temps, je n'ai pas pu en parler, mais vous avez, avec l'anglicanisme, un autre modèle de réforme qui est différent de ce que je vous ai présenté. Vous avez l'Allemagne, où finalement, ça va être un conflit entre différents princes, et on va être à égalité. La Suisse, c'est un peu pareil. Vous avez la France, où c'est là... Protestantisme, une réforme qui échoue à conquérir finalement, qui est donc minoritaire, et vous avez le modèle anglais qui est à l'extrême opposé, qui là est un modèle hégémonique de réforme imposée par le pouvoir. Pour faire bref. Hein. Donc c'est un élément important si on réfléchit aux formes de mouvements réformateurs. Il faudrait effectivement.
Oui, parce qu'on parlait de la suprématie,
c'est
très peu de choses près, c'est du catholicisme intégral sans pas.
C'est ça.
Donc en fait, le champ de en cause l'intégralité de la structure ecclésiale et dogmatique. Par contre, on change le chef. Donc là, c'est pour vous, c'est 100% politique.
Oui, c'est-à-dire que par la suite, disons, ça évolue un peu.
Non, simple question. Vous avez parlé de Gallipoli en Turquie, etc. Donc, en particulier, et c'est l'Empire ottoman. On a quand même les Omeyyades. En Andalousie jusqu'en 1492, à Grenade notamment, où on avait la mosquée, l'église, la synagogue qui cohabitaient depuis 7 siècles. Donc, est-ce que c'est pas juste aussi la Reconquista catholique en Espagne, la radicalité avec laquelle, d'ailleurs, et les civils musulmans et les juifs se sont fait virer de France, d'Espagne? Et d'ailleurs, sont montés pour certains aux Pays-Bas, au Botan d'Eras, pour certains ont traversé l'Allemagne, et particulièrement dans les principautés qui, quelques décennies après, ont basculé dans le protestantisme. Est-ce que, justement, la réaction catholique offensive à l'Ouest, je ne parle pas de la frontière Est, n'a pas aussi été, et on voit d'ailleurs la population.
Ah oui, bien sûr. Mais là, si vous voulez, le fantasme, c'est l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire le juif, le mort, converti, et puis en fait le reste en lui-même. Et c'est particulièrement vrai plutôt dans le rapport au judaïsme, à l'espèce. Mais vous avez ce fantasme qui émerge que finalement, le juif converti ne sait, au fond, pas vraiment converti, et quand bien même il l'aurait fait, sa nature est plus forte que son. Son sang est plus fort que sa conviction. C'est pas pour rien que beaucoup d'historiens d'antisémitisme voient dans l'Espagne de la Reconquista, à la fois contre l'islam mais aussi contre le judaïsme, un des terreaux de l'antisémitisme moderne, en tant que théorie pas encore raciale, puisqu'on n'a pas cette notion-là, mais liée à la question du sang juif. Et bien évidemment, alors pour l'islam, c'est pareil. Là aussi, c'est bon, ben, on a gagné, mais voilà, la marque Omeyyade sur l'Andalous, elle reste, et il faut se méfier parce que c'est dormant. Donc, vous avez aussi tout ce discours-là, hein. C'est pas que du triomphalisme. Et en particulier, ça contribue aussi à la logique de l'encerclement. Hein, si vous voulez, à l'ouest, on les a repoussés, mais ils sont quand même là. Et en plus, le sultan ottoman qui l'emporte à l'est, il est en train de progressivement se conquérir l'Afrique du Nord. Hein, donc, du coup, il y a vraiment cette idée de l'encerclement qui est extrêmement présent. Mais oui, là, bien sûr, par exemple, ça joue un rôle aussi dans cette vision des choses.
Une dernière question, Jean-Christophe.
Oui, rapidement, mais vous avez montré que c'est une période de crise à ce moment-là. Il y a aussi d'autres mouvements ou d'autres personnalités qui émergent, notamment Ignace de Loyola.
Oui.
Est-ce que c'est peut-être un peu un réformateur de l'intérieur qui aurait raté son coup?
Je ne suis pas sûr s'il a raté son coup.
Il y a quand même du temps, non, justement.
Parce que
il y a mis du temps, c'est tout.
Non, moi je trouve pas qu'il ait raté son coup, hein, enfin, dans son genre. Mais il y a une chose qu'il faut dire.
Il y a beaucoup de choses.
Alors il y a juste une chose qu'il faut souligner, c'est que c'est anecdotique mais c'est significatif en même temps. Ignace de Loyola, vous savez, a étudié un temps à Paris, dans un collège qui s'appelait le collège Montaigu, qui était situé sous la bibliothèque Saint-Geneviève d'ailleurs. Ce collège, je vais un panneau qui le rappelle. Ce collège avait été fondé par un homme qui adhérait à un mouvement qu'on appelle la dévotion moderne, qui est un mouvement disons de piété médiévale qui insiste beaucoup sur la dimension individuelle de la croyance. Hein, aussi pour vous dire qu'il y a un précédent à cette insistance sur la dimension individuelle de la foi pratiquée et vécue, sur la foi crue et confessée. Et donc Ignace a étudié dans ce collège. Il est arrivé en 1528, l'année avant l'arrivée d'Ignace, il y a un jeune homme qui quittait ce collège et qui s'appelait Jean Calvin. Était passé dans le même lieu. On sait qu'un des futurs bras droits de Calvin, Pierre Viret, réformateur de la Navarre en particulier, dans la même volée qu'Ignace de Loyola, et que dans ce collège, 20 ans plus tôt, avait aussi étudié Erasme de Rotterdam. Donc c'est symbolique ce que je vous dis là, enfin, pas seulement, hein, il y a quand même un courant qui est significatif, mais c'est qu'au fond, il y a une grande proximité dans beaucoup de ces parcours individuels, dans l'appréhension de ce qui est en train de se passer, mais avec finalement des choix ecclésiaux qui sont pas identiques. Un autre exemple que j'aime beaucoup citer, c'est le cardinal Gasparo Contarini, qui est l'exact contemporain de Luther, qui vit à peu près en même temps que Luther, 1515-1516, on le sait maintenant, le même type de crise que lui, et qui découvre, enfin qui s'en sort, en insistant beaucoup sur la miséricorde du Christ et l'adhésion au Christ par la foi. Et il restera cardinal, finira cardinal de l'Église catholique. Mais c'est juste pour dire qu'ils vivent tous dans ce terreau-là, parfois avec des parcours extrêmement proches. Moi, ils y donnent des réponses différentes. Mais au fond, si vous voulez, Ignace, dans son projet de pédagogie, d'enseignement, etc., va aller s'inspirer de ce qu'il trouve chez certains théologiens protestants. Et puis les théologiens protestants, ensuite, iront pomper des choses chez les jésuites. Hein. Il ne faut pas imaginer la confrontation confessionnelle qui s'ouvre à partir du XVIe siècle comme une confrontation de blocs hermétiques. L'un à l'autre, il y a tout le temps des communications, des inspirations. Moi, j'avais un peu travaillé dans la bibliothèque d'un collège jésuite à une époque. C'est passionnant, si vous étudiez les auteurs, les réformateurs, c'est le même lieu endroit. Hein, vous avez toutes les œuvres des réformateurs. Et par contre, quand je travaillais à Neuchâtel, j'avais travaillé sur un théologien du XVIIIe siècle qui était très soucieux de morale, d'édification morale. Et de sa bibliothèque, j'avais découvert toutes ces bouts d'œuvres, disons, de jésuites, etc. Donc c'est juste pour dire que, bien sûr, on les oppose, on les voit comme deux figures antithétiques, mais rappeler qu'ils ont été dans la même école, pour dire comme ça, c'est aussi rappeler qu'ils vivaient dans le même bain, que ils ont interprété chacun.
Oui, on voit bien comme Erasme et Luther. Il y a eu un moment où on aurait pu imaginer qu'ils passent encore ensemble.
Oui, mais finalement, ils se sont été amenés à se poser. Mais ils sont tous représentatifs, disons, d'un contexte culturel.
Un grand merci, Pierre-Olivier.